La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Alain Diekhoff, directeur de recherche au CNRS, ancien président du CERI. Vous avez dirigé Radicalité religieuse au cœur d'une mutation mondiale aux éditions Albin Michel. Bonjour.
Bonjour.
Alors Alain Diekhoff, vous êtes vous-même spécialiste du Proche-Orient et pour cet ouvrage, vous avez réuni les plus grands spécialistes de la plupart des régions du monde. C'est un livre transversal autour de la radicalité religieuse qui nous emmène bien sûr dans le monde arabo-musulman, mais aussi aux États-Unis, en Inde ou encore en Europe, où des partis populistes mettent en avant l'identité chrétienne du vieux continent. La question religieuse fait un retour en force sur la scène internationale?
Oui, je crois qu'elle fait en effet un retour en force sur la scène internationale, et c'est la raison en effet pour laquelle, avec une quinzaine de collègues, j'ai coordonné cet ouvrage. Alors, sous des formes évidemment variables. La religion de façon générale, et puis surtout ce qui nous intéresse ici, c'est quand même quelque chose de bien spécifique, c'est les radicalités religieuses. Donc peut-être définir en quelques mots ce que nous entendons par là.
Vous identifiez deux formes de radicalité religieuse.
Absolument. Il y a deux formes de radicalité. Alors radicalité, pourquoi avoir choisi ce terme aussi? Je l'explique dans l'introduction. C'est parce que ça veut simplement dire le retour aux racines, le retour au fondement. On aurait pu, et certainement il y a 30 ans, on aurait plutôt utilisé le terme, par exemple, de fondamentalisme, mais je crois qu'il est un peu trop lié, finalement, à l'histoire du protestantisme, où il est né, d'ailleurs, au début du XXe siècle, alors que le terme de radicalité est plus neutre en ce sens-là. Il n'est pas lié à une religion spécifique. Mais en effet, deux formes de radicalité, une radicalité que j'appelle piétiste et une radicalité activiste. En deux mots, la différence est assez simple. Les deux partage l'idée qu'il faut vraiment revenir au fondement de la religion, donc à une pratique en général assez rigoriste. Mais là où il y a un partage, c'est que la radicalité piétiste, finalement, se contente de ça. Elle demande à ses ouailles de revenir à une pratique rigoureuse de la religion, mais elle n'a pas vocation, elle ne cherche pas le pouvoir politique. Voilà. La seconde variété, la variété donc activiste, elle est aussi orthodoxe, comme je le disais, mais la grande différence, c'est qu'elle intervient dans la cité, elle veut changer les règles du jeu, elle est active politiquement, et in fine, dans le fond, elle veut que l'État devienne religieux.
Alain Diekhoff, vous écrivez dans ce livre que ces croyants, des fidèles ordinaires, mobilisent la religion pour se protéger d'un monde séculier qu'ils estiment menaçant. Pourquoi cette visibilité du fait religieux? Gilles Kepel, vous le rappelez, l'avait annoncé il y a 30 ans et cela s'est confirmé.
Oui, oui, c'est tout à fait vrai que Gilles Kepel avait écrit un livre il y a 30 ans où il pressentait que il y aurait un retour du religieux, comme il l'appelait. On peut dire que ce retour s'est confirmé, mais il faut être bien clair sur ce qu'il recouvre. C'est là qu'il peut y avoir d'éventuelles incompréhensions, y compris avec ce que nous expliquons dans le livre. Ça ne veut pas dire qu'une certaine sécularisation ne continue pas à fonctionner. Et en particulier, en ce qui concerne les questions de croyance et de pratique, dans certains espaces, pas partout, mais par exemple en Europe, c'est vrai que cette tendance à la décroissance de la fréquentation, par exemple, de la messe dominicale, continue. Donc il y a une baisse du fait d'aller à l'église, et c'est même vrai aujourd'hui en Europe de l'Est. La Pologne, par exemple, est un bon cas. On continue à avoir un peu l'image d'un pays très catholique. Alors c'est vrai en termes de population, d'origine, si vous voulez, mais en termes de pratique, depuis 30 ans, il y a une décroissance très forte de la pratique religieuse en Pologne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand nous disons qu'il y a à un certain moment, une sorte de panne de la sécularisation, c'est certainement pas sur le volet des pratiques et des croyances. En tous les cas, en Europe, c'est pas le cas. Dans d'autres espaces, c'est un peu différent, parce que dans d'autres espaces, comme en effet le monde arabo-musulman, on peut dire qu'il y avait une certaine déprise du religieux dans les années 70 qui a été, de ce point de vue-là, assez largement annulée, ou au contraire, il y a eu un retour du conservatisme religieux. On peut voir, par exemple, parfois des documentaires assez incroyables, où on voit en Afghanistan, par exemple, dans les années 70, des jeunes femmes en mini-jupe et sans voile, rien, à l'occidental. Évidemment, aujourd'hui, c'est absolument impossible d'imaginer ça. Donc, on voit qu'il y a évidemment des changements aussi sur ce plan-là. Mais le second point, la seconde dimension de la sécularisation, où là, il y a vraiment une sorte de retour de flamme, on pourrait dire, forte du religieux, y compris en Europe, c'est précisément dans ce qu'on appelle parfois, bon, c'est pas un très beau terme, mais la déprivatisation du religieux, c'est-à-dire le fait que le religieux est de nouveau présent sur la scène publique. Et ça, c'est un phénomène qui est un peu partout dans le monde, mais qui est aussi attesté en Occident. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est assez inédit, en tous les cas qu'on ne l'attendait certainement pas il y a 30 ans.
Et vous évoquez le cas de la Russie où Vladimir Poutine s'appuie par exemple sur la religion orthodoxe pour consolider son pouvoir et encourager les soldats à faire la guerre contre l'Ukraine.
Oui, alors là, c'est un cas vraiment très, très flagrant, hein, on pourrait dire presque un peu d'instrumentalisation du religieux. Il n'y a pas un rapport égalitaire, c'est-à-dire que le patriarcat est clairement subordonné au pouvoir politique. En fait, c'est le modèle byzantin classique, hein, qui existait depuis des siècles, que finalement Poutine reprend aujourd'hui. Mais là où c'est aussi intéressant, c'est de voir que cette reprise du religieux, en particulier en étant mêlée aux politiques, qui peut être à la fois l'œuvre d'acteurs politiques laïcs, mais aussi d'acteurs religieux eux-mêmes, hein, qui assument clairement cela, eh ben on la voit aussi quand même dans une certaine mesure en Europe occidentale. Pas partout, mais dans certains cas, et en particulier dans certains mouvements populistes, pas en France par exemple, où ça ne joue pas de rôle, ou très très marginalement avec le Rassemblement national, mais par exemple en Italie dans une certaine mesure, et surtout par exemple en Hongrie, il y a une utilisation très claire d'un certain rapport au christianisme, mais qui n'est pas vu comme une question de foi, mais une question d'identité, hein, et qui permet de démarquer les chrétiens, donc l'Europe en fait, des autres, et là très clairement, surtout des musulmans.
Mais c'est tout de même aussi un peu le cas en France, Alain Dickhoff, puisque vous parlez de ce projet immobilier chrétien promu par un milliardaire d'extrême droite.
Oui, alors oui, sauf que là, la version est un peu différente. Là, on est dans le cas d'une radicalité plutôt piétiste, c'est-à-dire que dans ce type de projet qui s'appelle en effet monastère, c'est-à-dire l'idée de créer des sortes de monastères pour laïcs, c'est vraiment l'idée plutôt qu'il y ait une sorte de bulle dans laquelle les gens qui seraient très pratiquants, dans une version plutôt conservatrice, en effet, du christianisme, restent entre eux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas trop en contact avec la cité impie. C'est pas dans une logique de conquête, c'est ça quand même la différence. Ce que je voulais pointer du doigt, c'est que, très clairement, le RN, qui est un parti populiste, utilise peu ce registre, par exemple. Alors que le parti populiste hongrois, le Fidesz, le parti d'Orban, lui, l'utilise. C'est ça que je voulais pointer comme différence. C'est qu'à l'intérieur de cette nébuleuse populiste, on a ceux qui restent finalement sur une position assez laïque, qui n'utilisent pas ce registre, et d'autres qui le font.
Comment expliquez-vous l'essor du protestantisme évangélique venu des États-Unis? Dans ce livre, un des auteurs met en avant, par exemple, le cas du Brésil.
Oui, alors ça, c'est très clairement, je dirais, dans l'expansion religieuse de ces 20 ou 30 dernières années, il y a deux phénomènes importants. Le premier, c'est l'évangélisme, c'est-à-dire la diffusion de cette version relativement plutôt effervescente du religieux, je dirais, aux États-Unis d'abord, et qui donc, en quelque sorte, limite l'influence des protestantismes historiques, hein, du type luthérianisme, calvinisme, anglicanisme également. Et ce type d'évangélisme, de rapport finalement très direct, hein, avec Dieu, hein, dans des cérémonies où on chante beaucoup, etc., il s'est diffusé beaucoup dans le continent sud-américain, en particulier au Brésil, où les évangéliques jouent un rôle politique très important, d'ailleurs comme maintenant aux États-Unis, hein, comme nous le savons, mais l'évangélisme il s'est beaucoup développé aussi en Afrique de l'Ouest. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit le second point, la seconde religion, en fait, qui est très concernée par un certain expansionnisme religieux, et un des points de contact, c'est précisément l'Afrique de l'Ouest, c'est l'islam. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, la grande bataille, en quelque sorte, c'est entre les protestants évangéliques d'un côté et les musulmans de l'autre, surtout les musulmans sur un mode salafiste. Ça, faut aussi le dire, c'est pas n'importe quel islam qui a tendance à se développer, c'est plutôt l'islam salafiste qui vient du Moyen-Orient et qui, par différents réseaux, se répand et d'ailleurs cherche un peu à restreindre ce qui était quelque part l'islam assez classique dans la région des confréries.
Prenons le cas du conflit israélo-palestinien dont vous êtes spécialiste, Alain Diekhoff. Vous écrivez que des rabbins de l'armée israélienne ont qualifié la guerre contre le Hamas de guerre sainte.
Oui, alors c'est très clair que dans le conflit israélo-palestinien, il y a une mobilisation du religieux des deux côtés. On a en effet des hommes de religion, donc aussi bien des rabbins que des cheikhs, des différents responsables religieux musulmans, qui finalement donnent une sorte de, si je puis dire, de bénédiction religieuse, en particulier au recours à la violence. Donc justifie le recours à la violence par la religion, et cette violence est une violence, je dirais, un peu politique, hein, puisque c'est dans le cadre d'un affrontement national, dans une lutte nationaliste, en fait, entre juifs et arabes. Et ça aussi, c'est une évolution qui date, disons, grosso modo, de ces 30, 40 dernières années. C'est-à-dire que dans les années 50 ou 60, il est très facile d'ailleurs de le vérifier. On regarde les discours des hommes politiques de l'époque, que ce soit Ben Gurion d'un côté ou Nasser de l'autre, vous ne trouvez pas du tout de référence aux religieux. Mais ça, c'est plus le cas aujourd'hui. Alors, vous en avez toujours quelques-uns qui continuent d'avoir un discours plutôt laïque sur le conflit. Mais ce qui est frappant, c'est que ceux qui ont un discours religieux sur le conflit sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui. Et en tous les cas, ont beaucoup plus d'audience. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très notable.
Et pour terminer, vous évoquez aussi dans le livre la radicalité d'une religion comme l'hindouisme, qui n'a pas vocation à convertir les autres. Et vous évoquez également, vous parlez aussi du cas du Myanmar, où un moine bouddhiste appelle à la violence au nom de la religion.
Absolument. Alors c'est vrai que le livre est surtout concentré, je dirais, sur les monothéismes, mais il y a quand même deux chapitres qui permettent d'un peu de sortir de cet univers-là. Et ce qu'on constate, c'est que dans le fond, même dans un univers à la fois polythéiste comme l'est l'hindouisme, ou aussi une religion de salut comme le bouddhisme, mais qui fonctionne sur des règles complètement différentes, on peut trouver des phénomènes similaires de politisation de la religion. Et ça, c'est vraiment ça montre, à mon avis, qu'on est vraiment dans un phénomène, comme on le met, il y a une mutation mondiale, il y a quelque chose qui se passe à l'évidence. Tout ça n'est pas le fait du hasard. Sinon, on aurait des occurrences par-ci par-là, mais pas des occurrences aussi généralisées dans des contextes très différents et avec des religions très différentes.
Merci Alain Diekhoff. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS, ancien président du CERI, et vous avez dirigé Radicalité religieuse au cœur d'une mutation mondiale aux éditions Albin Michel, un livre évidemment que je recommande aux auditeurs de la bibliothèque de Radio Orient. Merci.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.